Radio Bois.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète ?
Histoire, création,
politique.
Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième journée de colloque. Merci d'être avec nous à nouveau aujourd'hui, ou pour la première fois aujourd'hui, pour intervenir, assister ou échanger avec nous autour de la production poétique des femmes. On va aujourd'hui poursuivre les réflexions qu'on a commencées, largement entamées hier, pendant une première journée qui était très riche et très passionnante, avec toujours aujourd'hui donc ce fil rouge qu'on a déjà tiré hier, qui était celui de faire se rencontrer différentes pratiques, à la fois donc des études sur la poésie, la pratique de l'édition, de la visibilisation de la poésie, et puis aussi évidemment l'écriture poétique à proprement parler, qui aujourd'hui va vous être transmise notamment par la conférence de Luisa Ballesteros-Rosas, qui va commencer dans quelques instants, et puis cet après-midi une lecture d'Aurélie Foglia, et ce soir donc une deuxième soirée de performance diffusée à partir de 19h sur cette chaîne, cette fois donc sur la chaîne YouTube du festival, une soirée de performance qui rassemblera Zebulon Hirst, Lucy Ives, Anne Waldman et Yarrow Woods. Donc on a hâte de voir cette deuxième soirée. Et aujourd'hui donc on ouvre la journée comme hier par une conférence de la part d'une poète sur sa pratique poétique. Hier nous avons eu le bonheur de recevoir Marilyn Hacker, et aujourd'hui nous avons le très grand plaisir de recevoir donc Luisa Ballesteros-Rosas. Luisa Ballesteros-Rosas est docteure en études ibériques et latino-américaines de Sorbonne Université et HDR sur la révision de l'histoire d'Amérique latine par les écrivaines. Actuellement, elle est maître de conférences à Cergy Paris Université, où elle dirige le département d'études ibériques et latino-américaines. Elle est l'auteur d'une cinquantaine d'articles sur la littérature et la civilisation d'Amérique latine et de 4 essais sur les femmes écrivains d'Amérique latine. Elle a aussi publié un roman, 5 recueils de poésie bilingue français-espagnol, et a participé avec des poèmes et des récits à des revues et des ouvrages collectifs. Elle a obtenu le prix international de littérature Virginia Woolf en 2018 pour son essai Historia de Iberoamérica en las obras de sus escritoras, et l'ensemble de son œuvre est le prix du meilleur essai à la Feria del Libro de Madrid pour le même ouvrage. Donc parmi ses essais, on compte notamment La femme écrivain dans la société latino-américaine, en 94, La Escritora, c'est le même ouvrage dans sa version espagnole, Las Escritoras y la Historia de América Latina et Historia de Iberoamérica en las obras de sus escritoras, dernier ouvrage paru en 2018. Dans ses recueils de poésie, on compte notamment Plume de Colibri, Pluma de Colibri, aux éditions L'Harmattan en 97, Mémoire de l'oubli, Memoria del Olvido, aux éditions L'Harmattan aussi en 2001, Diamant de la nuit, Diamante de la noche, aux éditions Caractère en 2003, De l'autre côté du rêve, Al otro lado del sueño, aux éditions L'Harmattan aussi en 2011, et Pièce de sombra, une anthologie poétique en espagnol, paru en 2017. Son roman, enfin, est paru en 2017 et s'appelle Cuando el llanto no llega, et il est publié au Cial Pygmalion Ediciones. Aujourd'hui, elle va nous parler de sa pratique poétique dans le cadre de ce premier keynote. Et je lui laisse donc la parole. N'hésitez pas, quant à vous, à lui poser vos questions dans les documents partagés que nous continuons à vous donner dans les différents chats, où vous pouvez aussi poser directement vos questions dans les chats, d'ailleurs. Elles lui seront évidemment transmises à l'issue de cette conférence qui va durer environ une trentaine de minutes, après laquelle donc nous réserverons un petit temps de questions avec tout le monde. Je vous laisse la parole, Luisa Ballesteros-Rosas.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée et félicitations pour cet événement très important que vous avez organisé. Et je suis ravie de participer. Merci beaucoup de m'avoir invitée. En fait, je ne parle pas beaucoup de mon œuvre. D'habitude, je parle plutôt des œuvres des femmes écrivaines d'Amérique latine. Et donc, aujourd'hui, c'est pour moi une expérience presque nouvelle de m'occuper de mon œuvre et de parler d'elle devant vous. Donc, je ne savais pas trop comment l'aborder. Et, je vais d'abord parler de mes deux vies, la création et la recherche. Ensuite, l'évolution thématique, le début de ma création poétique et ensuite l'évolution thématique et formelle de mon œuvre. Deux vies, la création et la recherche. En tant que poétesse, écrivaine et universitaire, j'ai mené en même temps deux vies parallèles. Ma création et ma recherche qui portent principalement sur les femmes écrivaines de l'Amérique latine. En étudiant l'œuvre des écrivaines comme Gioconda Belli, Meira del Mar, Mercedes Carranza, Isabel Allende, Ana Teresa Torres ou Piedad Bonnet, parmi d'autres, j'ai trouvé des affinités et des intérêts communs avec elles, notamment une sensibilité particulière, consciente ou inconsciente, pour la condition de la femme. Et avec certaines d'entre elles, le besoin de mettre en évidence le rôle joué par la femme dans la société et dans l'histoire, sans être indifférente pour autant à des problématiques exposées aussi dans les œuvres des auteurs masculins, telles que l'identité, la rectitude de l'histoire, la récupération de la mémoire et la recherche des racines culturelles. Alors, ces thématiques concernent deux ouvrages qui rendent compte de mon travail, des recherches. La femme écrivaine dans la société latino-américaine, qui est mon premier ouvrage publié et qui est issu de ma thèse de doctorat à la Sorbonne. Alors, la femme écrivaine dans la société latino-américaine est issue de mes recherches pour le DOA, en fait, qui correspond, comme vous le savez, au Master 2, en fait. Et j'avais travaillé sur les femmes des lettres de l'Amérique latine, ces femmes ambassadrices qui tiennent des salons littéraires, qui s'occupent de la culture. Parfois, elles s'écrivent et parfois, non. Elles se limitent à promouvoir des écrivains ou des artistes. Et c'est à partir de ces recherches que j'ai retrouvé beaucoup de femmes écrivains et qui ne figuraient pas dans les ouvrages d'études littéraires de l'Amérique latine. Donc, ma curiosité m'a amené à choisir comme thème de thèse de doctorat la femme écrivaine dans la société latino-américaine. Et c'est ainsi que j'ai mené à terme une investigation sur ces femmes qui étaient, juste pour une petite minorité, étaient nommées étaient évoquées dans les ouvrages de critique littéraire, juste en bas de page, comme des icônes. Et à partir de là, il y avait beaucoup d'autres qui n'étaient pas mentionnés. Et donc, cet ouvrage, cette recherche a quand même contribué à qu'on introduise à partir de là les femmes dans les études de littérature latino-américaine. D'ailleurs, il y a quelques années, quand on a mis au programme d'agrégation d'espagnol une femme écrivain, Elena Poniatowska, mon ouvrage, enfin, il a été mis dans la bibliographie de l'agrégation d'espagnol. Mon travail s'est pas arrêté là, puisque on continuait à voir les femmes écrivains de l'Amérique latine comme des féministes d'emblée. Et c'est pas une façon de nier que toutes les femmes, nous sommes sensibles à la condition de la femme, puisque nous ignorons pas justement les efforts qu'on a menés pour être considérés à l'égal que les hommes dans tous les domaines. De là à les mettre dans une boîte comme des féministes d'emblée, pour continuer aussi à les exclure des études littéraires, ça m'a semblé injuste. Et je me suis dit que mon travail n'était pas encore fini, et c'est comme ça que j'ai choisi aussi pour mon habilitation à diriger des recherches, j'ai choisi le thème qu'elle travaille le plus à l'égal que les hommes, que c'est la révision de l'histoire. Alors, dans la révision de l'histoire, donc mon ouvrage « L'histoire de l'Amérique latine dans les œuvres de ses écrivaines », je traite de toutes ces femmes qui, dans leurs œuvres, traitent l'histoire, que ce soit dans la poésie, dans la prose ou dans le théâtre ou d'autres formes de création, et qui traite carrément de l'histoire, d'un événement historique, d'un personnage historique, ou qui évoque tout simplement, parfois dans la poésie, il ne peut pas se permettre de raconter tout un événement historique, mais elle s'évoque avec la métaphore et les mécanismes d'écriture, elle s'évoque les événements historiques. Et c'est ainsi que j'ai couvert 5 siècles d'histoire de l'Amérique latine à travers les œuvres des femmes écrivains. Il y a à peu près 92 femmes écrivains qui couvrent l'histoire de l'Amérique latine. Et donc, dans ce travail, il a fallu positionner le contexte historique. Ensuite, voir la façon comme chaque femme a évoqué ces sujets. Et par la suite, voir les mécanismes d'écriture que ces femmes ont employés, en plus des influences qu'elles ont eues et que d'autres se sont inspirées d'elles aussi pour raconter l'histoire. Et donc, la particularité de la réécriture des femmes, de la réécriture de l'histoire par les femmes, c'est qu'elles mettent en évidence le rôle de la femme dans les événements historiques, soit comme protagoniste ou comme témoin des événements. Bon, elles ne se limitent pas seulement à raconter l'histoire à travers la vision des femmes, mais elle traite aussi d'autres sujets marginaux que l'histoire officielle a laissé de côté. Et donc, elle profite aussi pour les évoquer, hein, comme la condition des Indiens, l'esclavage, et tous ces sujets, la façon comme a été menée la conquête, les conflits. Les conflits du 19e siècle, l'indépendance, les dictatures, les révolutions, hein, tous ces événements sont évoqués, sont racontés par les femmes en mettant en évidence le personnage féminin que l'histoire officielle a laissé de côté. Voilà. Mais en parlant de ma création, c'est en traduisant les textes pour le premier ouvrage La femme écrivaine dans la société latino-américaine, que j'ai pris conscience de mon rôle de poète. D'ailleurs, on me l'a fait, on m'a fait penser à ça, parce que j'avais ce que j'appelais mes brouillons dans un tiroir et j'avais pas osé, même pas osé les sortir pour les faire lire par quelqu'un. Et en traduisant les extraits des poèmes des femmes écrivains, on a remarqué que j'avais cette facilité de traduire différemment à comme ces textes sont traduits par des chercheurs. Par des chercheurs. Et c'est là où on m'a posé la question si j'écrivais de la poésie. Et j'ai dit oui, j'écris quelque chose qui lui ressemble, j'ai quelques brouillons. Dans des tiroirs, et alors la personne qui s'est chargée de l'édition de l'essai m'a demandé de sortir ses brouillons et de lui montrer pour une éventuelle publication. Et c'est comme ça qu'est née Plume de colibri, qui a été aussi mon premier travail de traduction en dehors des extraits des femmes, d'autres femmes écrivains. J'ai traduit moi-même mon premier recueil, mal traduit, que je vois un peu maintenant, bien que je l'ai fait corriger par d'autres, par des amis natifs français. Mais c'est très difficile de traduire la poésie. Ce recueil, c'est très cher pour moi parce que c'est un recueil qui saigne, hein, c'est-à-dire qui appartient à une période de rébellion chez moi, de besoin de liberté, de méfiance envers les sentiments, de méfiance envers l'amour, qui traite de la mort, qui traite des sujets pas toujours très gais. En fait, c'est un recueil de, pas de souffrance, mais comme une sorte de lutte. Je vois maintenant, hein, avec la distance. À ce moment-là, je ne me rendais pas compte, mais justement, en regardant mon travail maintenant pour le commenter, avec la distance, je me rends compte que ce recueil représente beaucoup pour moi parce qu'il m'a permis de sortir beaucoup de choses, même des choses négatives aussi que j'avais chez moi et qui a été aussi mon premier travail de traduction et d'intégration dans la culture française et de dans la langue française. Donc, ma poésie a démarré suivant mes propres inquiétudes du vécu féminin. Une méfiance envers les vrais sentiments, un questionnement aussi envers la trahison, la solitude, la mort, l'incompréhension, tous ces sujets. Et ensuite, je sors comme d'un tunnel et je commence à écrire Mémoire de l'oubli. Mémoire de l'oubli qui est une sorte d'émerveillement, de sortie de moi-même, la vision du monde extérieur, la nature, l'histoire, l'identité, justement. Cet ouvrage est issu aussi d'un voyage en Andalousie où j'ai retrouvé mes racines espagnoles et j'ai fait plusieurs poèmes sur plusieurs villes de l'Andalousie. Et du coup, par ricochet, j'ai écrit aussi sur certaines villes de la Colombie qui avaient des liens forts aussi avec l'Espagne. Et bon, dans ces recueils, ben, c'est comme une sorte de renaissance pour moi, en tant que femme et aussi en tant qu'intellectuelle avec une richesse meilleure de connaissances et d'intérêt pour d'autres cultures. Je vais lire un des poèmes de ce livre. Il s'appelle Avidez en espagnol. Je vais le lire rapidement en espagnol et ensuite je le lis en français. Il s'appelle en français, en espagnol avidez y en français avidité. Hoy quiero comerme entero el mundo, con dientes afilados de fiera en cuarentena. Quiero absorber el aire a bocanadas y acaparar el espacio a manos llenas. Quemarme con los rayos del dios astro, extasiarme del cielo azul, azul, y embriagarme en un lecho de pasiones. Quiero llenar de dicha mis sentidos y aullar como lobo sin su presa. Absorber el cáliz de las flores como una multitud de colibríes. Beberme todo el agua del espacio hasta regocijarme de la materia viva. Quiero soñar que soy la dueña de mi vida, de la vida, y vivir como una ola en remolino, en tempestad, en furia, hasta cubrir de este a oeste el horizonte y emerger en sirena realizada. Avidité. Aujourd'hui, je veux manger le monde entier, avec des dents aiguisées, des fauves en quarantaine. Je veux absorber les bouffées d'air et accaparer l'espace à pleines mains, me brûler au rayon de l'astre Dieu, m'extasier face au ciel bleu, bleu, et m'enivrer sur un lit de passion. Je veux combler de bonheur mes sens et hurler comme un loup sans sa proie, absorber le calice des fleurs comme une multitude de colibris, boire toute l'eau de l'espace au point de jouir de la matière vivante. Je veux rêver que je suis maîtresse de ma vie, de la vie, et vivre comme une vague en tourbillon, en tempête, en furie, au point de couvrir de est en ouest l'horizon et émerger en sirène accomplie. Donc, en dehors de ces sujets et des concepts universels comme l'amour, la nature, la mort, l'identité et l'histoire, il y a des états d'âme et des émotions, comme on a vu dans le poème que je viens de lire, enrichi par la connaissance, par le vécu, accompagné aussi d'une évolution formelle, créative, que on va retrouver plus marqué dans le recueil suivant qui est Diamant de la nuit. Alors Diamant de la nuit, c'est un ouvrage qui est très cher pour moi, qui est né d'une sorte de passion pour la lune. Je voyais la lune. Il y a eu une période où je voyais la lune dans tous les coins des rues, derrière les arbres, sous les toits, enfin partout, et dans toutes les formes possibles. Et donc, c'était comme une sorte de suggestion. Et j'ai commencé à m'intéresser à la lune, et donc j'ai fait des recherches sur les mythologies, sur la vision de la lune dans les différentes cultures. Et c'est ainsi que j'ai écrit comme une sorte de poème, un seul poème avec des séquences avec 5 séquences. Et chaque séquence a été illustrée par un peintre colombien qui s'appelle Francisco Roca et qui habite à Paris. Et donc, ça je ne sais pas si on voit bien, mais ça se présente un peu comme ça. En fait, je suis allée les voir pour qu'ils s'illustrent, lui et sa femme. En fait, ils sont peintres tous les deux. Ce sont des amis de longue date. Et j'ai amené les poèmes pour leur dire que j'avais besoin d'illustrer mon travail, s'ils pouvaient me procurer leur peinture. Et en fait, Francisco, il est allé chercher dans ses derniers travaux, il a commencé à sortir les gravures. Et en fait, c'est comme si j'avais fait les poèmes exactement pour son travail. Tellement il était lunatique, il était aussi lunatique que moi. Et donc, on a fait un ouvrage qui nous semblait beau de tout point de vue. Et il y a l'écrivain, le poète paraguayen Rubén Barreiro Saguier, qui était ambassadeur du Paraguay à Paris, qui a lu mon manuscrit, qui m'a fait la préface. Donc voilà, donc cet ouvrage, il traite exclusivement de la Lune, dans toutes les cultures. Et il y a aussi, en même temps, une identification de la femme avec la Lune. Je vais lire quelques extraits de cet ouvrage. Donc, il commence par « Je suis femme lune, celle qui vole, aérolite, constellation, astro divin, qui embellit le visage de la nuit, chasseresse qui parcourt tous les lieux de l'origine. » Et dans une séquence où je traite de la mythologie des civilisations précolombiennes, je vais lire cet extrait. À Pascamayu, je suis consacrée. Le Cian est ma maison vénérable. Les Chimous m'ont divinisé avant les louanges des Sankas à la nature et la fertilité, mes dons sacrés. Ils me marièrent à Inti, rencontré sous le lac Titicaca, sous une pluie d'étoiles. Mon époux aime contempler mon visage de neige dans le miroir d'Assur. Je dois ma présence diurne au sacrifice du lama. Mon nom, Aviracocha, père et créateur. Il m'appelle Mamaquilla, monsieur prodigue les fruits terrestres. Aujourd'hui, j'ai voulu reposer dans le nid du condor. Ensemble, nous avons aperçu l'océan. Devant moi, tout est devenu blanc. Blanc, la cime des montagnes. Blanche, la distance. Blanche, l'atmosphère. Et dans une autre séquence, je parle de la mythologie gréco-romaine. Par rapport à la Lune. Et c'est cette partie qui donne le titre du roman « Diamant de la nuit ». Il dit « Diamant taillé loin du jour, lumière à faire pâlir les étoiles, lisse dans le jardin d'épines, je suis la sœur du soleil et de l'aurore. Sur mon char d'argent, j'arpente le ciel, tirés par des cheveux scellés. Arc et flèches sont mes emblèmes. Les Romains me nomment Diane. Savent-ils que je fis périr Octéon, Orion et Callisto? Qu'avec mon frère Apollon, J'ai vengé l'injure de Niobé, sacrifié Iphigénie sous la main d'Agamemnon et exaucé la prière d'Arétus qui voulait se changer en fontaine. De la couleur de mes désirs vêtus, j'ai contemplé Endymion cette nuit-là. Pont invisible entre songe et veille, par où mon ombre se précipite. Mes bras sont les stèles de sa mémoire. De ne plus s'éveiller, c'est de ne plus l'éveiller. J'ai prié Zeus. Je suis Sélénée qui navigue dans ses rêves. Et dans ce recueil, donc, il y a déjà une évolution du point de vue formel. J'ai rompu avec la rime qui m'a poursuivi depuis le début de mon écriture poétique, peut-être par l'influence de mes lectures, des poètes du 27 espagnol, des poètes latino-américains comme Neruda, comme Gabriela Mistral, tous ces poètes qui avaient eu beaucoup d'influence sur moi, m'ont collé cette musique littéraire, cette rime dont j'ai eu du mal à me défaire, puisque les poètes de ma génération n'écrivaient plus comme ça et je me trouvais un petit peu... un petit peu arriéré de ses côtés, mais rien à faire. La musique, surtout en Plume de colibri et en Mémoire de l'oubli, dans ces deux recueils, toujours il y avait la rime, au moins une rime interne, mais elle venait toujours. Et là, avec Diamant de la nuit, j'ai rompu ces façons d'écrire. J'ai écrit un vers plus dépouillé, avec un vocabulaire aussi plus élevé. J'ai rompu même avec la ponctuation. J'ai donné entièrement la liberté aux mots et à leur sonorité, comme si je voulais à travers l'écriture, me libérer moi-même, comme disait Octavio Paz, que c'était en libérant la parole que l'homme pouvait se libérer. Ce qui a donné le titre de son ouvrage, Libertad bajo palabra. Avec mon expérience, justement, j'ai trouvé ce besoin inconsciemment et par la suite consciemment. Donc l'ouvrage suivant, De l'autre côté du rêve, c'est un ouvrage qui traite de beaucoup de sujets, mais qui est un peu existentialiste. C'est une réflexion sur l'existence de l'homme sur notre existence à tous, sur nos rapports avec la nature, et aussi sur des concepts divers, sur l'art. Il y a pas mal de poèmes sur des tableaux, certains tableaux de Modigliani, par exemple. Donc c'est un ouvrage plus réfléchi et philosophique en même temps, où la ponctuation est complètement, alors là, elle est complètement finie. Et donc il suffit de se laisser porter par la poésie et on n'a pas besoin de ponctuation. Et donc c'est le dernier ouvrage. Bon, j'ai des poèmes inédits dans les tiroirs, comme au début, mais je n'ai pas eu le temps de m'occuper de les publier. Et, mais là, cet ouvrage, il date de 2011, donc ça fait 10 ans déjà. Et je vais lire certains poèmes, ils ne sont pas très longs. Alors, celui-là, je vais le lire en espagnol et en français, si j'ai le temps. Je ne sais pas si... oui, je crois que j'ai dépassé le temps, mais je vais finir. Et il s'appelle « Ruinas ambulantes ». Ruine ambulante. A través del palatino romano deambulamos como sombras. Ante nuestra presencia transparente, las piedras permanecen mudas, huellas vencidas que desafiaron el tiempo. Sus escarias son signos ilegibles, alfombra de otras ruinas postradas que reconocen nuestros pasos, nuestro olor, nuestra respiración. Somos imágenes similares a rostros del pasado. Repeticiones de otras comedias interpretadas infinidad de veces. Ignoramos en qué planeta quedó enredado nuestro pensamiento, suspendidos nuestros sueños, enajenadas las palabras. En qué lago de incomprensión se ahogan nuestras lenguas antiguamente habladas, en qué nube o en qué ola huyeron nuestras divinidades. Somos hojas secas jugando a estrellarnos con el aire, a circular con un nombre prestado. Como ruinas del Palatino, nos convertimos en testigos mudos de nuestra propia historia, en perfecto abandono de los dioses. Ruines ambulantes. À travers le Palatin romain, nous déambulons comme des ombres. Face à notre présence transparente, les pierres demeurent muettes, vestiges vaincus qui osèrent défier le temps. Leurs écorces sont des signes illisibles, tapis d'autres ruines postrées qui reconnaissent nos pas, notre odeur, notre respiration. Nous sommes des images semblables à des visages du passé, répétition d'autres comédies interprétées à l'infini. Nous ignorons sur quelle planète nos pensées se sont émêlées, nos rêves suspendus, nos paroles s'aliénées. Dans quel lac d'incompréhension nos langues anciennement parlées se sont noyées? Sur quel nuage ou dans quelle vague nos divinités se sont enfuies? Nous sommes des feuilles sèches jouant à nous fracasser dans l'air, à circuler avec un nom d'emprunt. Comme des ruines du Palatin, nous sommes devenus des témoins muets de notre propre histoire, abandonnés à jamais par nos dieux. Je pense que j'arrête là. Merci beaucoup. Je réponds volontiers à vos paroles parce que là, j'ai dépassé un peu le temps.
Non, mais c'est pas très, très grave. On avait prévu une pause d'un quart d'heure, mais on peut la réduire un petit peu dans la mesure où, de toute façon...
Désolée.
Non, mais vous en faites pas. C'était extrêmement intéressant et merci à vous d'avoir partagé... cette vision de votre pratique avec nous, d'autant que vous nous avez précisé que c'était quelque chose que vous ne faisiez pas, donc c'est d'autant plus touchant. Donc merci d'être venu partager ça avec nous. Je ne sais pas s'il y a des questions, alors je vais aller voir sur le document, peut-être déjà parmi nous que certains ou certaines ont des questions. Moi j'en ai et je vais aller vérifier sur le...
Nous nous sommes dit que ce serait peut-être mieux de poser les questions directement.
Il y a des appareils.
Et justement, par rapport à l'écriture dans les deux langues, moi, en tant que hongroise qui écrit en français, je me suis posé la question comment vous percevez quelle différence vous percevez entre écrire en espagnol dans votre langue maternelle et écrire en français, que ce soit de la poésie, de l'autotraduction, de la traduction.
Oui, merci pour cette question parce que vraiment la réécriture ou la traduction poétique est très difficile pour trouver vraiment la nuance, le sens tel qu'on le conçoit. Le trouver dans l'autre langue est très difficile. Il m'est arrivé pareil de traduire du français vers l'espagnol parce qu'il y a des poèmes qui m'arrivent. Les muses m'arrivent en français. Et donc, il y a des poèmes qui me sont inspirés en français et ensuite pour le passer à l'espagnol, je trouve plus difficile encore que le contraire. Au départ, j'écrivais les textes en espagnol et ensuite me donnais un mal fou pour les, pour les traduire en français. Et même quand j'ai fait, par exemple, Memoria del Olvido, je l'ai fait traduire par Julián Garavito, un franco-colombien qui a traduit plusieurs écrivains importants de l'Amérique latine. Et on a eu du mal, on s'est disputé chaque fois qu'on s'est rencontrés pour voir la traduction, parce que je ne sentais pas, il y avait des choses que je ne les sentais pas en français. Et il y a des mots qu'on n'a trouvé jamais la traduction. Et, par exemple, une fleur qui s'appelle Azahares, en espagnol, je ne sais pas si en Espagne il y a la même fleur, on l'appelle pareil, avec laquelle on fait les coiffes pour les mariés. Et Julián, il l'a traduit comme fleur d'oranger. Alors, ça sonne vraiment bizarre quand on traduit des azahares, fleur d'azahares à fleur d'oranger, même si elles ressemblent, la fleur, mais ce n'est pas la même chose. Et il a assuré que c'était ça et il s'est resté comme ça dans la traduction, mais je sais que ce n'est pas ça. D'ailleurs, j'ai trouvé, dernièrement, on trouve plus cette plante dans les magasins chez les floristes. On la retrouve, mais avec un nom scientifique très bizarre que je n'ai même pas appris. Mais ce n'est pas la même chose que fleur d'oranger. C'est un exemple parmi d'autres. Et aussi le capullos. Le capullos, dans un poème sur le printemps, où je m'émerveillais le 21 mars pour le changement des stations, qui pour moi, pour les latino-américains, c'est très nouveau. C'est spécial parce que là-bas, les stations ne sont pas si marquées qu'en Europe. Et donc ici, on voit le changement des hivers, automne, printemps, été. Et j'avais écrit un poème sur le printemps. Et donc, je parlais des capullos, c'est-à-dire les petits boutons qui sortent tout neuf dans les arbres. Et là, pareil, il a dit que non, que c'était pas ça. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a mis. C'était difficile. En tout cas, c'est très difficile de passer à une langue à l'autre pour répondre à votre question. Je pense que vous avez la même expérience que moi pour sentir exactement la même nuance. C'est plus difficile de traduire la poésie que de traduire un essai ou même un roman. On peut toujours tourner autour et trouver ce qu'il faut, de plus précis, mais dans la poésie, non.
Oui, en fait, j'ai pensé plus à l'expérience du travail, parce que Beckett, par exemple, qui a une œuvre bilingue et qui s'est traduit aussi, qui a écrit certaines de ses œuvres en français, d'autres en anglais, il parle quand même de la grande difficulté en tant qu'écrivain d'écrire dans sa propre langue. Et comme ça, c'est pour ça qu'il a un moment tourné vers le français, mais après il revient. Et oui, donc c'est cette expérience qui m'aurait intéressée dans votre travail.
Est-ce que d'autres... Alors je crois que sur le Framapad, il n'y a pas de questions, mais est-ce que parmi vous, il y en a? Moi sinon, j'ai des questions aussi, donc je peux aussi... vous en poser, et notamment j'ai trouvé ça très intéressant que vous commenciez cette présentation par rappeler votre travail sur les femmes écrivains latino-américaines et cet ouvrage qui, ben, pour le coup, quand on fait pour avoir fait des études sur Alfonsina Storini en Master 2 à l'époque, votre ouvrage, pour moi ça a été un des ouvrages fondamentaux pour ma recherche, donc, merci pour ça déjà. Et je me demandais, est-ce que pour vous, rendre leur place à ces femmes écrivains, travailler sur ces femmes poètes aussi, ça a été une manière de construire aussi comment dire, une histoire favorable au déploiement de votre propre parole poétique. Est-ce que ça vous a servi aussi à prendre confiance en votre écriture ?
Inconsciemment, je pense que oui. Mais dans la pratique, j'ai eu des expériences assez négatives par la vision qu'on a de la poésie. Et c'est là que j'ai adoré dans ces colloques, justement, de parler de la poésie, concrètement. Parce que en Colombie, par exemple, quand on envoie des écrivains pour représenter le pays, par exemple ici, au Salon du Livre en 2017, et c'était l'année France-Colombie, d'ailleurs j'ai fait un colloque là-dessus, et les actes viennent de paraître. On a invité des écrivains colombiens pour venir ici représenter le pays, et on n'a pas envoyé un seul poète et aucune femme. Et même les femmes poètes qui étaient là comme moi, on ne les a pas invitées. Et l'excuse qu'on m'a donnée, c'est qu'on invitait seulement les écrivains, pas les poètes. Alors, manque de chance pour eux. Cette même année, venait de sortir mon livre « Quand il y a un tonnelier », celui-là, à Madrid. Et j'ai reçu quelques exemplaires. Ce qui fait que j'ai pu le présenter au consulat de Colombie pendant l'aperture du colloque. J'ai présenté mon ouvrage. Et alors là, il ne s'attendait pas à ça. Alors, il y a eu un scandale en Colombie, de la presse et tout, parce qu'on n'avait pas envoyé des femmes pour représenter la Colombie ici en France. Ici en France, on s'accommodait très bien et ils se jetaient la balle les uns vers les autres. Les Français disaient que c'était les Colombiens et les Colombiens disaient que c'était les Français. Que parce que les éditeurs français voulaient juste des ouvrages qui parlaient du conflit armé en Colombie.
Ah oui.
Et en fait, je pense qu'ils n'étaient pas loin de la vérité parce que le président de cette époque-là, il était derrière le prix Nobel de la paix. Et donc, pour lui, c'était très bien d'exalter toute la problématique du conflit armé en Colombie pour pouvoir se hisser pour le prix Nobel de la paix qu'il a eu, en fait. Donc, ils sont invités des écrivains. Et l'autre excuse, c'est que les femmes, elles n'étaient pas assez publiées en France. Il n'y avait pas de femmes publiées en France. Donc, on leur a retourné l'évidence que oui, qu'il y avait une telle, publiée. Ah non, mais que c'était des poètes. Ben ça, c'était adressé à moi. Que c'était des poètes et qu'il fallait que ce soit des écrivaines. Ouais. Bon, en tout cas, ils ont noyé le poisson, mais à la fin, on s'est aperçu qu'en fait, les hommes écrivains qui sont invités ici, ils n'étaient même pas publiés en France. Ils n'allaient même pas être, je crois que jamais ils vont être publiés, certains, mais ils sont invités. Et il y a déjà, à la fin du colloque, à la fin des célébrations de l'année France-Colombie, ils sont amenés... comment ça s'appelle déjà, Laura Restrepo, qui est une femme écrivaine très connue, très célèbre en ce moment. Mais on lui a dit de parler juste de son ouvrage Multitudes errantes, qui parle des déplacés, des populations déplacées à cause du conflit en Colombie. Et donc, je suis allée l'écouter au Centre Pompidou où elle a présenté son travail. Et déjà, en dernier moment, ils ont invité Piedad Boni, qui est une poétesse qui est très, très connue en Colombie, très bonne poète. Ils l'ont invitée à la fin, mais ils ont fait remarquer qu'ils l'avaient invitée pas pour la poésie, pas comme poète, mais parce qu'elle venait de publier un ouvrage sur son fils qui s'est suicidé, qui est mort. Hein. Donc, le sujet, peut-être ça leur plaisait, hein, de la présenter en piété douloureuse. Et donc, ils l'ont invitée au dernier moment, mais parce qu'elle était venue à Madrid recevoir un prix littéraire. Donc, elle n'était pas loin.
D'accord.
Voilà, bah, c'est comme ça. Donc, pour la poésie, c'est sûr que ça me... L'expérience des femmes écrivains de l'Amérique latine ne me réconforte pas trop, hein, leur position. Et moi-même, je commence à subir la même discrimination à cause de ça.
Oui, merci beaucoup. Mais c'est extrêmement intéressant, en plus, ce recroisement dont vous parlez entre une vision sexiste, en fait, et puis qui se surajoute sur le genre poétique qui est lui aussi décrié, que ça fait un croisement. Et je pense que c'était aussi une des questions qu'on avait envie d'aborder dans ce colloque aussi, c'est qu'en est-il du genre poétique aujourd'hui quand il se surajoute au genre féminin en plus. Donc, merci beaucoup pour
oui,
ce passage.
J'ai oublié de dire aussi qu'à l'université, c'est pareil. Hein. Quand on est poète, on n'est pas pris au sérieux.
Oui.
Quand on écrit de la poésie, il faut ne rien dire à l'université. Hein. Parce qu'alors là, on vous prend comme je ne sais pas quoi. Je suis désolée, mais c'est comme ça.
Non, non, vous avez raison. alors malheureusement, même si ces échanges sont très intéressants, je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête là pour laisser quand même 4 minutes de battement avant le premier panel. On a déjà bien grignoté, mais c'était extrêmement intéressant de parler avec vous. Merci encore d'avoir accepté notre invitation à partager votre pratique poétique.
Je vous remercie et j'espère que ça va être mis en ligne.
Bon, oui, oui, bien sûr, c'est
privé. Je vais pouvoir continuer à vous entendre. Mais hier, malheureusement, je vous ai écouté qu'il y a un intervalle. Et si c'est mis après en ligne, ce sera bien de bien vous écouter toutes.
Oui, oui, bien sûr, c'est prévu normalement. Alors, on va redemander l'accord, j'en profite pour en reparler. On va redemander l'accord de toutes les intervenantes et les intervenants pour avoir la certitude que les gens acceptent qu'on publie. Mais normalement, c'est prévu. Voilà.
Bon, très bien. Merci.
Du coup, on se retrouve dans 3 minutes, vraiment le temps d'aller faire ce que vous voulez d'ailleurs.
Boire un café.
Voilà, merci encore.